Bonsoir à tous et à toutes qui, d'ailleurs nos lecteurs, et cet après-midi du 16, on peut dire ce soir du 16, que je suis très ravi d'être ici par un professionnel de médias et puis un confrère qui va tout de suite nous en parler un peu de ses activités et aussi de ce que vous avez fait de votre déplacement ici en France pour la Guinée. Et de votre séjour, ce que vous avez vécu dans ce pays. Et puis voilà, vous allez d'ailleurs présenter à nos lecteurs.
Moi, je m'appelle Thomas Dietrich. J'ai passé un mois de reportage en Guinée pour le compte du Média, qui à la base est une web télé plutôt engagée à gauche, hein, militante, et qui fait aussi beaucoup, fait du papier maintenant. Bon, j'ai écrit pour d'autres journaux, mais ça me semblait intéressant d'aller couvrir la situation en Guinée, à l'aune de tout ce qui se passe depuis octobre, hein, c'est-à-dire il y a un président Alpha Condé qui a 82 ans a décidé de changer de constitution pour pouvoir mourir au pouvoir, hein, parce que c'est clairement ça, et c'est clairement l'objectif. Et en face, il y a une vraie révolte populaire, il y a une belle révolte populaire, dans toutes les régions de la Guinée, mais qui est durement réprimée par les forces de l'ordre. Non, ça, je l'ai vu sur place. Et donc, c'était aussi d'aller constater et témoigner, raconter ce qui se passe. Donc, j'ai été longtemps à Conakry, je suis passé aussi au Fouta, à Labé, à Pita. Voilà. Et puis, j'ai couvert les manifestations aussi du FNDC à Conakry. Donc, puis je pense avoir une vision un peu d'ensemble de la situation actuelle en Guinée. Voilà.
D'accord. Avant d'aller très loin d'ici, est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand vous étiez parti en Guinée et pourquoi vous étiez parti?
Je suis parti le 5 février, je suis revenu le 6 mars, j'étais expulsé le 6 mars, mais c'était le jour où je devais revenir, donc bon, de toute façon ça n'a pas changé grand-chose. J'ai été, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment la situation chaotique, dramatique que traverse ce pays qui m'a incité à aller en Guinée. J'y avais déjà été une reprise, mais il y a très très longtemps. Voilà, j'ai voulu aller témoigner de ce que vivent les gens sur place, hein, donc tout simplement. Donc voilà, j'ai pris mes affaires et je suis allé.
D'accord. Paraît-il dans votre activité de couverture médiatique, vous avez été interpellé en Guinée. Dites-nous combien de fois et où exactement vous avez été interpellé.
J'ai pas j'ai été j'ai eu deux accrochages avec les forces de l'ordre pendant mon séjour, pendant que je couvrais les manifestations. Donc une première fois à Wanindara, à Koya, en banlieue de Conakry, c'était le 12, le jeudi 12 février, si je dis pas de bêtises. En fait, j'ai pris les photos de gamins, vraiment des gamins jeunes, hein, 10-12 ans, qui étaient arrêtés par les forces de l'ordre, des gamins qui étaient mis dans les pick-up et qui allaient être emmenés vers une destination inconnue. Là, il y a un lieutenant de gendarmerie qui m'a confisqué mon accréditation. Et une deuxième fois, c'était donc le jeudi 5 mars, c'était la marche de l'opposition du FNDC qui avait été interdite. J'étais entre Bambeto et Amdalaï, là, nom de la pharmacie d'Amdalaï. Et il y avait un jeune homme qui était en train d'être arrêté par les forces de l'ordre, et il était bastonné, hein, vraiment, on lui donnait des coups de matraque dans le dos. Donc dès que j'ai commencé à filmer, les gendarmes et les policiers s'étaient mélangés, se sont précipités sur moi, on a arraché mon téléphone, on m'a porté deux coups à l'épaule, on a menacé mon chauffeur. Voilà. Bon, la seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que le jeune a pu s'enfuir dans la confusion. Voilà. Et puis donc j'ai fini par donc j'ai déposé plainte après, mais ma plainte a été déposée lundi dernier, elle a été classée le mercredi, donc c'est bien classée sans suite, alors qu'on avait donné toutes les preuves, effectivement il y avait les vidéos sur place. Et puis donc j'ai été arrêté une dernière fois, donc le vendredi 6, c'est ça, le vendredi 6 mars. C'était le jour où je devais partir, donc c'est assez étrange. Donc ils m'ont conduit à l'aéroport, ça m'a évité de payer le taxi, pour m'expulser sur le vol que je devais prendre. J'ai pas trop compris l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Ils ont annulé au dernier moment mon accréditation, donc qui m'avait été délivrée et renouvelée par la Haute Autorité de la Communication. Mais visiblement, l'annulation de l'accréditation, elle n'a pas été dans les formes, puisque normalement il faut réunir le collège. Alors moi, je ne suis pas spécialiste des lois guinéennes, mais il faut réunir le collège de la HAC. Et là, visiblement, c'était une décision unilatérale de la présidente de la HAC qui a été prise annulé, mais bon, on sait très bien d'où l'ordre venait. Et donc j'ai été expulsé, enfin expulsé, sans bagage, sans arrêté d'expulsion d'ailleurs, j'ai pas eu d'arrêté d'expulsion, sur le vol du soir que je devais prendre, puisque de toute façon je devais rentrer après un mois de séjour en guidée.
Donc après toute cette brutalité que vous avez vécue en Guinée, certainement vous avez porté plainte, mais votre plainte a été classée sans suite. Quelle était la raison?
Ben, en fait, je vais vous la lire. Le classement sans suite, c'est. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Voilà. C'est donc c'est le procureur de la République, hein, qui écrit: Il m'est apparu que les faits indiqués sont insuffisamment justifiés, alors qu'on avait donné quand même les vidéos. Qui prouvait la brutalité des forces de l'ordre. Mais bon, moi, ce que j'ai vécu, c'est-à-dire, il n'est rien par rapport à ce que vivent certains confrères de la presse guinéenne, qui, je trouve, font un travail remarquable et courageux malgré le manque de moyens, les intimidations, la répression. C'est franchement, moi, je suis admiratif de la liberté, de l'impertinence, du courage de la presse guinéenne, la presse privée notamment. Les journaux comme le Lynx, voilà, c'est vraiment, et d'autres, c'est formidable. Et je sais que ce qu'ils vivent au quotidien est très dur, la difficulté de couvrir ces événements-là sans être brutalisé par les forces de l'ordre, et a fortiori ben, les manifestants hein, qui sont victimes des exactions des forces de l'ordre, parce que quand même, bon, depuis octobre, il y a eu plus de 40 victimes civiles, ce qui quand même, c'est pas une bavure hein, quand on arrive au chiffre de 40, donc il y a une réalité qui est là. Moi, j'ai été un peu secoué, mais je veux dire, ce que j'ai vécu, et ça je tiens à le dire, n'est rien en comparaison de ce que peuvent vivre les confrères de la presse guinéenne et a fortiori les manifestants qui sont des fois tabassés et pires par les forces de l'ordre. Ouais.
Franchement, je sais qu'on va revenir sur l'annulation de votre accréditation et par rapport à la liberté de la presse, mais comment votre expulsion s'est déroulée de la maison jusqu'à
En fait,
l'aéroport
j'étais rendre visite à un ami français et quand je suis descendu de l'appartement, il y a trois officiers de police qui sont rentrés dans la cour assez gradés. Il y avait un colonel, un commandant, un lieutenant. Et ils m'ont dit, on vous embarque. Alors, j'ai dit, mais écoutez, vous avez un mandat? Il m'a dit, non, on n'a pas de mandat, mais on vous embarque quand même. Bon, ben, j'étais tout seul, ils m'ont embarqué dans un fourgon et puis ils m'ont amené directement à l'aéroport. Il est 17 h, ça veut dire que j'allais de toute façon pas tarder à aller à l'aéroport. Et ils m'ont mis en salle d'embarquement, sans rien, sans bagage, et ils m'ont dit, bon, bah, on va t'expulser. Bah, j'ai dit, bah, ça me fait de belles jambes, je comptais rentrer chez moi. Mais moi, je pense qu'ils ont fait ça pour, en fait, c'est comme si je partais, comme si je partais librement, c'était une sorte de défaite pour eux. Je sais pas comment l'interpréter. Je pense qu'ils ont, ce que j'ai fait là-bas, mon article, les vérités que j'ai relatées ne leur ont pas plu, donc ils ont trouvé cette combine, et surtout en même temps, ils ont arrêté deux leaders de la société civile guinéenne en brutalisant la femme d'un d'entre eux, ce qui est quand même bien plus grave. Ils ont passé une semaine de détention sur des motifs qui étaient complètement foireux, hein, disons-le très clairement, et ça montre l'état d'arbitraire de ce pays qui, quand même, voilà, vis-à-vis de la presse ou vis-à-vis des simples citoyens. Ouais.
Et ensuite, vous avez alors encore, à vue de vos explications, que vous avez déjà, votre accréditation a été renouvelée
Oui,
par l'HAC,
oui.
mais l'HAC aussi avait annulé cette accréditation.
Bah, ils ont annulé le dernier soir quand j'étais à l'aéroport, donc ça me servait plus à grand-chose. Ils ont annulé sous prétexte que je ne respectais pas l'éthique des journalistes. Alors je suis très content qu'on m'apprenne à faire mon métier. Mais oui, c'est-à-dire que bon, ils ont eu une demande de la présidence ou du ministère de l'Intérieur d'annuler mon accréditation pour avoir un prétexte pour m'expulser. Mais au fond, le vrai problème, c'est que peut-être que j'ai dit des choses qui n'étaient pas en faveur d'Alpha Condé. Et ça doit faire réfléchir sur le rôle de la presse internationale, qui, comme beaucoup de conflits en Afrique, n'est pas capable de relayer correctement ce qui se passe. Ça veut dire que les journalistes arrivent, ils sont envoyés, ils passent 5 jours au bord de la piscine de leur hôtel, ils font une interview du président. Bon, mais l'analyse peut être fausse. J'ai vu que certains, par exemple, certains envoyés spéciaux, notamment de Libération, qui sont arrivés à Conakry pour couvrir le référendum et l'élection législative du 1er mars, ben, on dit que le problème de la Guinée, c'était un problème entre Malinké et Peul. Alors, c'est très très bien, mais Qu'est-ce que vous faites, par exemple, des gens qui se révoltent à Nzérékoré dans la forêt? C'est pas des peuls. Je veux dire, la contestation aujourd'hui qui est contre Alpha Condé, elle ne se limite pas à un caractère ethnique. Certes, la répression est très forte envers les peuls, notamment dans le Fouta, ça c'est clair. Mais le problème de la Guinée n'est pas un problème ethnique. Le problème, c'est qu'il y a un dictateur qui est en place et qui veut perpétuer son pouvoir par tous les moyens, avec le soutien de certains réseaux d'argent qui sont ici aussi en France. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est souvent le problème, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui la presse étrangère, qui est censée être plus libre, ne fait pas son boulot, ne le fait pas assez bien. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des intérêts. On sait que la presse en France n'est pas forcément aussi libre que celle qu'on voudrait bien le croire, mais il n'en reste pas moins que ben, sur ce qu'est la Guinée, ben, il y a un silence, il y a un silence qui est assourdissant et pourtant il y a des morts. Hein.
Donc, parlant de, parce que vous parlez beaucoup de la liberté de la presse, aujourd'hui, vous avez été un témoin oculaire de ce qui se passe en Guinée par rapport aux journalistes et vous qualifiez un peu de la presse internationale de n'avoir pas vraiment dit ce qui se passe réellement dans le pays alors qu'ils sont partis là-bas. Pour vous, vous pouvez. Pour vous, il y a une sorte de corruption derrière ce silence.
Corruption, corruption, je sais pas et je ne me permettrai pas de le dire. Peut-être de manque de compétences déjà, je pense. Bon, il y a une réalité, c'est qu'effectivement la Guinée a beaucoup de soutien à l'international. Hein. Alpha Condé a beaucoup de soutien à l'international, pas seulement derrière les pays un peu bizarres comme la Turquie qui lui envoie un bateau pour produire de l'électricité ou la Chine ou la Russie, mais aussi des réseaux d'argent. On a vu qu'ici en France, il y a eu des gens comme Xavier Niel, le patron de Free, Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva, qui ont investi dans les mines de bauxite en Guinée. La Guinée est un pays extrêmement riche. C'est-à-dire que c'est un scandale géologique et c'est encore plus un scandale de voir qu'à côté, avec toutes ces richesses, les populations continuent à vivre dans une misère noire, c'est ça la réalité. Et que ce sont des étrangers, qu'ils soient chinois, français, turcs ou russes, qui continuent à piller les ressources qui devraient normalement appartenir à la Guinée. Donc oui, il y a des réseaux d'argent parce que on sait que la Guinée, par exemple, a la moitié des ressources de bauxite du monde, bah, ça attire des convoitises. Et donc le régime, forcément, s'appuie sur ces réseaux d'argent pour se perpétuer au pouvoir. Et quand on sait que les réseaux d'argent... Les grands milliardaires détiennent bien souvent les grands titres de presse. Bon, on peut dire que la boucle est bouclée, voilà.
Ben, tout ça est comme on dit que c'est un réseau, alors on peut dire c'est un réseau mafieux en général, mais toujours dans la liberté de la presse. Est-ce que vous avez été témoin oculaire de la répression vers certains journalistes guinéens ou des journalistes guinéens qui sont en prison? Vous avez eu à rencontrer d'autres?
J'ai pas vu de journalistes guinéens molestés pendant les manifestations, mais j'ai discuté avec beaucoup de confrères de la presse guinéenne. J'ai su leurs mésaventures, j'ai su ce qui s'est passé. Et c'est une presse courageuse qui est un peu à l'image du pays, hein, qui est un peuple digne et qui se bat pour sa liberté malgré toutes les souffrances qu'il y a eu depuis la colonisation, depuis 1958, Sékou Touré, Dadis Camara, etc. et aujourd'hui Alpha Condé. C'est quand même impressionnant de voir la résilience du peuple guinéen qui toujours est capable de se relever, de se battre voilà, contre son bourreau. Donc oui, les journalistes finalement sont victimes de l'état actuel du pays, de l'atmosphère générale qui est absolument déplorable. Hein. Là, c'est un homme seul qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte et qui est prêt à transformer son pays en un cimetière hein, pour y arriver. C'est quand même assez incroyable.
Alors, parlez-nous un peu de différentes manifestations que vous avez assistées et selon vous, comment se déroulent ces différentes manifestations?
Bon, moi, c'est-à-dire que j'ai pas connu les marches gigantesques qui ont lieu en octobre, où on s'est rassemblé un million de personnes. C'était plus, en fait, la police empêchait les manifestants de se regrouper parce qu'ils mettaient un pick-up à la sortie de chaque ruelle, donc ils empêchaient les gens de sortir de leur quartier. Donc, et d'ailleurs, ils jetaient eux-mêmes des pierres sur les manifestants et les manifestants répliquaient aussi. Et surtout, après les manifestations, ils rentrent dans les quartiers et ils tirent à balles réelles, notamment à Wanindara, là, qui est un des fiefs de la contestation. Il y a eu des morts, hein, un gamin de 15 ans qui a été atteint d'une balle, qui a été blessé. On l'a amené dans deux hôpitaux, à Ignasdine, à Sino-Guinéen, des hôpitaux publics qui ont refusé de le recevoir. La famille a appelé la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, qui est quand même assez scandaleux, a dit, bah non, nous, il nous faut l'accord d'un officier de police judiciaire. Alors, les mêmes officiers de police judiciaire qui ont tué le gamin, le gamin a fini par mourir vidé de son sang alors qu'il avait 15 ans et qu'il était sorti chercher une miche de pain pour accompagner le maigre repas du soir. Donc oui, c'est assez terrible, avec des violences de la part des il n'y a pas d'exercice constitutionnel du droit à manifester, alors que normalement ça devrait être garanti à tous les Guinéens. Là aujourd'hui, les marches sont systématiquement interdites, même quand il y a une demande d'autorisation qui est faite. Et c'est quand même, voilà, c'est quand même, moi je ne suis pas guinéen, mais quand même, on peut que être choqué par cette situation, voilà.
Tout dernièrement, quand vous avez été expulsé, le ministère de la Sécurité, Damata Albert Camara, avait diffusé un communiqué en vous reprochant d'outrepasser vos prérogatives ou vos missions selon votre accréditation. Qu'est-ce
Alors,
que vous pouvez
je pense
répondre à cette accusation?
Albert Londres disait un truc très vrai. Il disait, le journalisme, c'est pas présider les processions en la main dans une corbeille de pétales de rose et en jetant les pétales, c'est porter la plume dans la plaie. La question n'est pas moi de faire du tort à Alpha Condé ou de faire plaisir à Alpha Condé. C'est pas mon problème. Ma priorité est de raconter la vérité. Et le journalisme, encore une fois, c'est pas l'objectivité, c'est pas 5 minutes pour les victimes, 5 minutes pour les bourreaux, c'est pas 5 minutes pour Hitler, c'est pas 5 minutes pour les juifs. C'est être la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, c'est ce que disait Césaire. Et c'est raconter la vérité, ce que les gens vivent au quotidien. Et voilà, j'ai raconté ce que les gens vivent au quotidien en Guinée. Ma seule limite, c'est le mensonge, c'est la diffamation. D'ailleurs, si demain l'État guinéen ou quelques représentants de l'État guinéen, comme par exemple le gouverneur de l'Abbé, se sentent lésés par mon article, estiment que j'ai dit n'importe quoi, ils peuvent attaquer par les juridictions compétentes. Ils ne l'ont pas fait parce qu'au fond, ils savent très bien que c'est la vérité. Par contre, si le fait d'outrepasser mes prérogatives de journaliste, c'est d'écrire des articles qui ne plaisent pas au prince, bah, effectivement, je l'assume, hein, je l'assume très clairement. Voilà, je n'ai pas, j'ai écrit ma vérité. Tant pis si ça ne plaît pas au gouvernement guinéen, bien sûr, ils ont déjà expulsé, je crois que c'était en octobre, en novembre, les journalistes d'Al Jazeera. Voilà, on continue à. Les journalistes sont victimes, comme le reste de la population, de la répression qui s'abat. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Alpha a refixé les élections législatives au 22 mars. Il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a un fichier électoral qui est gonflé de plus de 2,5 millions d'électeurs. Là, je sais qu'il y a une mission qui arrive à Conakry, là, avec Issoufou, Ouattara et Bouhari, si je m'abuse. Espérons qu'ils arrivent à leur raisonner et que la Guinée ne sombre pas dans un énième bain de sang, parce que ce pays qui est encore une fois un beau pays, vraiment c'est un plaisir et un honneur d'être là-bas, le mérite mieux, mérite des jours meilleurs. Ouais.
Et avec tout ce que vous revenez sur la mauvaise gestion aujourd'hui qui est connue par tout le monde, vous avez été quelqu'un qui a déjà montré aussi une face de vérité de ce qui se passe, non seulement à Conakry, mais à l'intérieur du pays. Et vous avez rencontré le gouverneur de la région de l'Abbé, je pense, Malick Fine Diané, où vous l'avez enregistré et que cette vidéo avait fait vraiment le tour des réseaux sociaux.
En fait, je veux dire, les tortionnaires ont toujours tendance à. Ils aiment bien raconter leurs exploits. Et c'est un vrai tortionnaire, c'est-à-dire, ils sont passés par le pour lui, c'est-à-dire, il était bourreau dans le camp Boiro à l'époque de Sékou Touré. Et donc, moi, j'avais rencontré les familles des victimes, hein, des gamins qui ont été tués pendant les manifestations à l'Abbé par l'armée, par les bérets rouges. Et donc, je suis allé au gouvernorat parce que j'essaie de faire mon travail de journaliste et je recoupe les sources. Et donc, ce monsieur-là, j'ai fait l'interview, il y avait 15 personnes autour, il y avait des militaires derrière moi, commence à parler, hein, c'est pas moi qui l'ai forcé à parler. Et puis, bon, au détour d'une conversation, on dit, on aurait préféré les arrêter si on pouvait les arrêter plutôt que les tuer. Et la vérité est sortie, ce qu'il avait toujours nié, mais bon, enfin, on savait tous qui avait été responsable des morts, qui avait été responsable de la mort de l'ambulancier. On voit une vidéo où on voit très clairement que c'est l'armée qui frappe à mort le pauvre ambulancier qui était venu chercher le cadavre d'un jeune manifestant tué. Voilà, bon, ce monsieur, visiblement, est toujours en poste. Je pense qu'il peut-être avant de s'intéresser à mon cas et au fait que j'outrepasse ou non mes fonctions de journaliste, il aurait fallu s'intéresser aux aveux de ce monsieur-là, parce qu'ils sont assez clairs. et que moi je mettrai jamais à la place des Guinéens et tout ça, mais peut-être que si ça intéresse la justice guinéenne, bon bah que la justice fasse son travail. Mais bon, c'est triste, c'est triste qu'on ait encore de pareils personnages. En plus, il a un certain âge, il a 75 ans, hein, mais au moins à la tête de l'État, et qui mène une telle répression envers leur population, c'est terrifiant. Ouais.
Ben, tout récemment, lui, il a dit qu'effectivement, il vous a rencontré, mais il nie que ce n'est pas sa voix qui était
Je
sortie ou on a sorti ce
crois que
qu'il
c'est le
a dit
contraire.
dans
Il dit,
son
il
podcast.
reconnaît que c'est sa voix.
Oui.
Il reconnaît que c'est sa voix, mais il m'a jamais rencontré. Donc oui, bon ben c'est un peu léger comme défense. Bon voilà, pardon. Voilà, moi je l'ai enregistré parce que je faisais. Il le savait d'ailleurs. C'était un entretien pour la presse écrite. Et vu l'importance de ce qu'il racontait, ben, j'ai décidé de diffuser l'audio parce que je pense que c'est un document. Et si d'ailleurs j'avais dû l'enregistrer sans son consentement, je l'aurais fait aussi parce que c'est l'information d'intérêt général. Forcément, les plus grandes affaires, le Watergate ou le financement de la campagne de Sarkozy par Kadhafi n'est pas sorti sans est sorti sans le consentement des auteurs. Donc moi je l'aurais fait, mais en tout cas il avait accepté. Bon après il essaie de se défendre comme il peut. Ce qui est triste et encore une fois déplorable, c'est qu'ils sont encore en place. C'est surtout ça, et on peut s'inquiéter à l'avenir pour ce qui se passera à l'abbé, parce que s'il y a déjà eu 5 morts, peut-être y en aura-t-il plus dans les jours à venir. Hein.
Alors, je reviens un peu parce que vous avez fait le tour de l'actualité de la Guinée. Depuis que vous avez été expulsé de la Guinée, quelle a été la réaction de l'État français? Est-ce que vous avez eu de soutien? Est-ce que...
Vous savez, le problème que moi j'ai, c'est que j'étais expulsé d'un certain nombre de pays, de dictatures africaines. Et je me suis toujours engagé pour la France-Afrique parce que je suis fier d'être français. Je suis profondément fier d'être français. Et je trouve que la politique que mène la France en Afrique est absolument déplorable, voire criminelle. Donc j'ai eu à m'engager à écrire des articles sur les travers de la politique française en Afrique et l'ingérence française qui continue à confiner l'Afrique dans un sous-développement qui ne devrait pas être aujourd'hui, parce que l'Afrique est riche, hein, très clairement. Donc évidemment, bon, ben, le ministère des Affaires étrangères, c'est pas pressé pour m'apporter le soutien. Je sais que RSF m'a apporté soutien, mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas ma petite personne qui compte. J'étais beaucoup plus touché des messages de soutien de beaucoup beaucoup de Guinéens qui m'ont écrit après mon expulsion, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en privé, pour m'apporter leur soutien. Ça m'a vraiment touché. Parce que d'abord, ce travail, je l'ai fait pour eux, pour raconter leur réalité. Et si ça a pu les, voilà, si ça a pu aider même un tout petit peu à faire avancer, à faire connaître la cause du peuple guinéen, ben j'en suis fier. Et puis, peu importe qu'on me soutienne ou pas. Ouais.
Mais en clair, je pense qu'il y a eu beaucoup de messages, mais il n'y a pas que de Guinéens, peut-être de Français aussi,
Oui,
vous ont adressé des messages.
mais ce que je veux dire, c'est que les institutions françaises sont restées motus et bouche cousue, peut-être parce que les reportages que je fais dérangent certains intérêts français. On sait qu'Alpha Condé, même s'il est lâché plus ou moins par Le Drian, et encore soutenu par certains réseaux de la gauche française, hein, les réseaux socialistes, hein, son grand ami Bernard Kouchner, donc il y a voilà, Bolloré a encore le port à Conakry, même s'il y a beaucoup qui est sous-traité aux Turcs aujourd'hui. Donc il y a des intérêts qui sont encore là. Et moi, je le dis toujours, moi la révolution, elle se fera. C'est au peuple guinéen de la faire, à personne d'autre. C'est à eux de le faire. Sankara disait, on fait mieux, il faut mieux faire un pas avec le peuple plutôt que 10 pas sans le peuple. Et c'est quelque chose de très vrai. C'est-à-dire que nous, on n'a pas notre rôle à jouer. C'est les Guinéens qui doivent faire leur révolution. Ce que peuvent faire les étrangers, ce que peuvent faire les amis de la Guinée, c'est de témoigner. De raconter les souffrances, c'est la vérité de ce qui se passe là-bas, mais c'est au peuple guinéen de le faire, et je pense qu'il le fait très bien depuis octobre, et il continuera à le faire comme il a su le faire par le passé.
Par rapport à ce que vous avez vu en Guinée, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la démocratie avec ce qui se passe en Guinée?
Ah, alors en France, on n'a pas de leçon à donner en matière de démocratie, puisque quand même avec la crise des Gilets jaunes, on a eu une restriction sans précédent des libertés publiques. Mais non, en Guinée, c'est très clairement pas une démocratie. C'est-à-dire quand vous avez des manifestations qui sont interdites, des manifestants tués, des personnes qui disparaissent et qui sont envoyées en Haute-Guinée, au camp de Soronconi, ce sont pas quand vous avez une presse qui est qui molestaient. Ce ne sont pas des conditions optimales pour l'exercice plein et entier des prérogatives démocratiques. Non, c'est clair. Aujourd'hui, malheureusement, Alpha Condé, qui avait suscité d'énormes espoirs à son arrivée au pouvoir, quoi qu'on pense de son élection par ailleurs, mais on dirait ah, c'est le Mandela de l'Afrique, la nation arc-en-ciel, en fait, a beaucoup déçu et s'est révélé finalement aussi cruel et avide de pouvoir que les personnes qui l'ont précédé et qui l'avaient combattu. C'est quand même triste, hein, ça montre à quel point le pouvoir ronge, le pouvoir détruit et le pouvoir change l'homme, que d'un très grand opposant, on peut passer à un vulgaire dictateur. Ouais.
Ben, vous avez parlé du camp de Soulon-Conny. Est-ce que vous avez eu vraiment où vous avez été dans ces camps? Vous avez
Non,
compris comment on déporte les gens
non,
dans ces
non,
camps?
non. Mais quand j'ai eu l'altercation à Amdalaï, le jeune qu'ils avaient arrêté, ils étaient en train de lui dire, on va t'emmener à Soranconi. Donc il lui parlait, les gendarmes parlaient au jeune et disaient, on va t'emmener à Soranconi. Et après, comme ils se sont tous jetés sur moi, le jeune a fini par fuir. C'est à mon avis, je lui souhaite parce que Soranconi, ça n'a pas l'air très sympa. Donc moi, je connais pas ça,
Donc là, mais quand même, vous avez entendu parler de
oui.
gendarmes dire à
Oui,
un civil, on va t'envoyer à
et mon
Soulon-Conny.
chauffeur était moi, et moi, on les a, on l'a entendu. On a entendu plusieurs fois, ils lui ont dit. Donc, ça existe. Je ne sais pas combien il y a de gens là-bas. Quels sont, moi, je n'ai pas eu le temps d'enquêter. Ça aurait été intéressant. Je suis pas sûr qu'on m'aurait laissé rentrer au camp, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, on parle beaucoup de disparition. Ce n'est pas seulement un fait de l'opposition. C'est vraiment des gens qui disent, ben, on disparaît. C'est vrai que moi, j'ai entendu très clairement hein, les gendarmes parler à ce jeune homme. Et lui, ben, on va t'envoyer là-bas. Donc, ça doit être une réalité. Et le système répressif, en tout cas, est bien en place là-bas.
D'accord. Alors, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu, je pense que j'ai pas grand-chose aussi à vous demander. Sauf que si vous avez un message particulier à s'adresser non seulement aux Guinéens et au monde aussi qui est en train de suivre beaucoup de Guinéens qui sont en train de mourir dans le champ de bataille.
Moi, j'ai pas de message à. Moi, je ne me permettrai pas de faire la leçon au peuple guinéen parce qu'il y a des pays qui sont des leçons de vie et je pense que la Guinée en fait partie. C'est vraiment une leçon de vie. J'ai beaucoup appris dans ce pays-là. Beaucoup appris du courage, de la lutte, de la résilience, de la capacité à se relever. Et ça, je dois d'abord remercier les Guinéens de m'avoir appris tout ça. Et au monde, ben, je dirais en fait, on est tous une seule et même humanité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le drame que vit la Guinée, il se répercute, puisque voilà, les Guinéens sont les deuxièmes demandeurs d'asile en France, les premiers en ce qui concerne les mineurs isolés. Donc, ils cherchent à fuir leur pays parce qu'ils n'ont pas d'espoir, pas d'avenir, parce que des fois, ils sont réprimés. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment de s'intéresser à ce beau pays-là. Et encore une fois, ce ne sont pas des problèmes lointains, c'est des problèmes qui nous concernent tous. Quand on est père de famille, et moi j'ai vu la douleur des pères qui avaient perdu leur fils, des enfants de 15 ans qui sont morts soudeurs, de 20 ans, qui sont morts en tenue de travail dans des manifestations. Cette douleur-là, je peux la comprendre et je peux la partager. Et j'espère qu'un jour ces pères-là auront justice pour leurs fils qui ont été assassinés parce que juste ils espéraient en un monde meilleur. Et voilà, c'est juste ça. Je souhaite vraiment à la Guinée de s'en sortir. De vivre une belle alternance démocratique, voilà, le bain de sang dans lequel elle est plongée depuis des mois s'arrête et que vraiment, vraiment, ce pays connaisse tout le bonheur qu'il mérite, hein, ça vraiment.
Bah, oui, avant de quitter, j'allais oublier. Quelle est votre perception par rapport à la liberté de la presse guinéenne? Est-ce qu'on peut parler d'une presse libre?
Il y a des espaces, c'est-à-dire qu'il y a une presse, comme je dis, très impertinente, très courageuse. Il y a des espaces de liberté, c'est-à-dire qu'il y a une presse qui relate les réalités du pays, les réalités des manifestations. Mais c'est vrai qu'ils font face quand même à un pouvoir qui est dur. Il y a déjà eu des journalistes qui ont été mis en garde à vue, des journalistes molestés pendant les manifestations, des fois des journalistes auxquels on supprime leurs images, on les menace. C'est quand même très compliqué. Je suis sûr que si demain un journaliste prend son véhicule va à Soulon-Conny, ça lui sera quand même assez compliqué d'enquêter sur l'éventuel le camp qui existerait, les déportations, les internements qui sont faits là-bas. Donc non, c'est une réalité. Mais tout de même, ça c'est quand même à mettre au crédit de la presse guinéenne, c'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, la presse ne lâche pas l'affaire, continue à raconter la vérité. C'est admirable, vraiment, c'est admirable. Voilà.